au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou qui vient de diriger dans le cadre du Cercle Turgot un nouvel ouvrage, le troisième ouvrage du Cercle Turgot, dont le titre est très, très alléchant, « Rigueur ou relance ?» Le dilemme de Buridan ou la politique économique face à la dette. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Merci d'être avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Vous publiez beaucoup et vous dirigez aussi les publications. Alors je vous rappelle que vous êtes président d'Asterès, que vous êtes enseignant à Paris...
Assas.
Et que vous êtes un chroniqueur qui fréquente assidûment les médias. Alors ce nouvel ouvrage donc, du Cercle Turgot porte sur... la dette publique. Et sur ce choix, toujours douloureux, la politique, c'est normalement des choix. Ce n'est qu'un choix, d'ailleurs, la politique. En plus, l'économie, c'est la même chose. Donc, rigueur ou relance, c'est le dilemme de Buridan. C'est un livre, bien entendu, collectif. Hein, donc, l'ensemble des auteurs et des experts
Absolument.
Du Cercle Turgot ont participé. Donc, première question, c'est quoi le choix, en tout cas la voie possible à prendre sur ce chemin de crête entre la rigueur et la relance? Est-ce que c'est la relance, selon le néologisme de Christine Lagarde? Quelle est votre thèse?
C'est sans doute la relance. Le mot n'est pas très joli, mais je trouve que Christine Lagarde, finalement, avait fait œuvre de pédagogie. C'est vrai qu'on nous présente souvent l'alternative comme s'il fallait placer un curseur entre rigueur et croissance. Or, à mon avis, la question ne se pose pas tout à fait comme ça. Parce que si on avait vraiment le choix de placer le curseur entre rigueur et croissance, à moins d'être complètement masochiste, mais on le placerait sur croissance, bien évidemment. Donc, je pense que la question ne se pose pas tout à fait comme ça. La question, c'est plutôt, alors que nous sommes obligés de faire de la rigueur, parce que nos créanciers nous le demandent, parce que les tensions sur les finances publiques sont devenues très importantes, parce que notre dépense publique et notre déficit public et notre endettement public, c'est finalement beaucoup d'endettement de dépenses courantes et pas beaucoup d'investissements, donc ça ne génère pas forcément un retour sur investissement, pour le dire ainsi, positif à moyen et à long terme. Bref, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de mener une politique de rigueur. Mais comment faire en sorte que ce ne soit pas pénalisant pour la croissance? Donc je crois que c'est un chemin de crête. Vous l'avez très bien dit, mais je pense que c'est néanmoins possible. Et je crois qu'un certain nombre de papiers qui ont été faits par nos amis du Cercle Turgot, je voudrais dire quand même qu'on retrouve des noms très prestigieux hein, dans cet ouvrage. Alors, j'ai sans doute en oublié, mais Philippe Dessertine, Jean-Pierre Petit, François Meunier, Olivier Pastré, Michael Mangot pour la jeune génération.
Enfin, Jean-Claude Gruffat, enfin.
Un aéropage vraiment tout à fait exceptionnel, donne à mon avis des réponses relativement opérationnelles sur ces questions. C'est-à-dire, comment concilier rigueur et croissance? Quels sont les arrangements institutionnels qui pourraient finalement permettre de mieux contrôler la dette publique? Comment préserver l'équité générationnelle? Un merveilleux chapitre de Michael Mangot sur une question dans un pays qui vieillit avec des conflits de générations qui se dessinent. Vraiment quelque chose, un sujet extrêmement important et auquel il apporte des réponses tout à fait passionnantes. Donc la question se pose de cette façon. On doit faire de la rigueur, comment on fait? Comment on fait pour que ça ne pénalise pas la croissance? Comment on fait pour que ce soit bien accepté?
Alors vous commencez par donc une première partie par un état des lieux de la dette publique et vous indiquez à travers remarquables contributions de Vivien Lévy-Garbois et Gérard Marek quelles sont les vraies raisons d'avoir peur de la dette publique. Parce que certains se laissent aller à dire que, bon, après tout, la dette publique, c'est quelque chose d'assez normal et que dans une économie développée ou avancée, ben, il faut vivre avec et que les choses s'arrangeront progressivement.
Alors, le jour où on aura une crise des finances publiques, l'opinion publique leur demandera des comptes parce qu'on est dans une société extrêmement transparente où maintenant, ce qui est nouveau, on demande des comptes aux économistes. On a commencé à le voir avec la crise de 2008-2009. Et c'est pour ça, en effet, que la contribution de Lévy-Garbois et de Marek est tout à fait centrale parce qu'elle pose les termes du débat de façon extrêmement rigoureuse. Bien entendu, on peut avoir des déficits publics. Bien entendu, on peut avoir de l'endettement public. L'État, ce n'est pas une entreprise. Il y a des investissements à financer, des investissements qui ont finalement une rentabilité qui est difficilement mesurable ou quand elle est mesurable, qui se projette sur un horizon de très long terme. Et l'État est légitime pour mener des politiques économiques du type keynésienne. Quand on a une récession, par exemple, comme ça a été le cas en 2008 et en 2009, on peut parfaitement décider de laisser le déficit budgétaire filer un peu pour que la la dépense publique, finalement, remplace temporairement le secteur privé. Donc, on est d'accord là-dessus. La question aujourd'hui n'est pas là. Les États-providence d'Europe se sont énormément endettés ces 20 dernières années, non pas pour financer de l'investissement, non pas pour mener des politiques économiques keynésiennes comme cela a été fait aux États-Unis, mais essentiellement pour financer leurs dépenses sociales. Et c'est ça qui est très compliqué, parce qu'on n'arrive pas à en sortir, parce qu'on a pris de mauvaises habitudes, il y a des effets de cliquet. Aujourd'hui, nos États-providence se sont considérablement développés. On en est tous très contents, moi le premier. On est ravis quand on va se faire soigner à l'hôpital, on est ravis d'avoir des retraites qui, malgré tout, sont garanties. Sauf que tout ceci coûte très cher, et nos créanciers, qui sont de plus des créanciers étrangers, je rappelle que la dette française est détenue à 70% par des étrangers, et des étrangers qui ne sont pas que des Allemands, des Italiens, des Espagnols ou des Britanniques ou des Américains. Ce sont de plus en plus des Chinois, des Russes, des fonds souverains dans les pays du Golfe. Et le risque, c'est que demain, nos créanciers nous disent « Écoutez, on vous a jusqu'ici prêté de l'argent à 10 ans, par exemple, à 3 ou 3,5%, mais aujourd'hui, on considère que vous êtes un investissement un peu risqué. Pas complètement risqué, mais un peu risqué. Et donc, on vous prête de l'argent, mais à 4%, 5%, 6%. Je rappelle qu'en 2011, l'État français va aller chercher plus de 100 milliards d'euros sur les marchés pour se refinancer. Donc ce sont des questions qui se posent tout de suite. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut surtout ne pas se retrouver dans une situation où nos créanciers ne nous feraient plus confiance et nous demanderaient des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Parce que là, on aurait un effet boule de neige, puisque ces intérêts, il faut bien les payer. Et ça représente une charge importante pour la dépense publique. Donc il ne faut pas se retrouver dans cette situation. Et c'est bien pour ça qu'il faut déjà montrer aux créanciers, parce qu'on dit toujours aux marchés financiers. Marché financier, ça ne veut rien dire, c'est abstrait. Ce sont les créanciers, ce sont les gens qui nous prêtent de l'argent depuis les années 70.
Et qui peuvent s'arrêter.
Et qui peuvent s'arrêter ou continuer, mais dans des conditions qui sont beaucoup moins favorables pour nous.
La grande question, c'est de se dire, mais face à un tel problème, est-ce que la tentation des gouvernants, des responsables, ne serait pas de suivre le fameux exemple de Buridan, qui, à force d'hésiter, est mort de faim et de soif après avoir hésité entre d'un côté un seau d'eau et de l'autre du picotin d'avoine. Mais est-ce que véritablement ce risque est envisageable? Parce qu'à un moment donné, vous le disiez tout à l'heure, les marchés financiers sont là et ils pourraient faire prendre une décision de force à ceux qui voudraient imiter l'âne de Buridan.
Mais absolument, mais de deux choses l'une. Soit on considère que ces sujets ne sont pas du sujet sérieux ou finalement pas très grave et donc on repousse l'affaire à plus tard. Auquel cas, là aussi je le dis brutalement, mais on peut parfaitement avoir dans quelques années, bien évidemment, pas à l'horizon de 3 mois, pas à l'horizon de 6 mois, mais on peut avoir dans quelques années un scénario à la grecque ou à l'irlandaise. Que s'est-il passé en Grèce? Finalement, ce que je viens de décrire, c'est-à-dire des créanciers qui considèrent que le prêt à l'État grec est de plus en plus risqué, donc qui demandent à la Grèce des taux d'intérêt de 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Et là, on a un effet boule de neige et la Grèce se retrouve dans une situation de quasi insolvabilité. Voilà. Il ne faut pas se retrouver dans cette situation-là. Mais quand on se retrouve dans cette situation-là, là, je peux vous dire qu'on est obligé de faire de la rigueur budgétaire. Donc là, on n'est plus dans le dilemme de Buridan. Donc soit il se passe ça, soit on traite le problème en amont, dès maintenant, et on se dit, bah, finalement, on va essayer de faire les choses de façon ordonnée, sans que ce soit trop délicat sur le plan social. Et donc, dès maintenant, on va réfléchir à la façon dont on peut faire des économies, éventuellement augmenter un certain nombre de recettes fiscales. Mais en France, les impôts sont déjà lourds. Donc on voit bien que la marge de manœuvre porte sans doute davantage sur la diminution de la dépense publique. Et donc, ce sont des sujets sur lesquels on doit se pencher dès maintenant. La réforme des retraites, je pense que tout le monde a bien compris à quelle sauce on allait être mangé. On sort d'une réforme. On en sort un peu fatigué, mais enfin, la réforme a quand même été faite au moins partiellement. Mais si vous prenez le sujet de la maladie, par exemple, on n'en a pas encore débattu en France. Et on est tous très contents de notre système d'assurance maladie, de notre système de santé. Moi le premier. Mais si on veut le conserver, il faut le financer autrement. Et il va falloir se poser des questions extrêmement violentes du type, qu'est-ce qu'on rembourse et qu'est-ce qu'on ne rembourse plus? Si on veut continuer à financer ce qu'on appelle les ALD, les affections longue durée, qui coûtent très cher, et je crois, c'est ma conviction en tout cas, que ça fait partie de notre pacte social de continuer à les financer. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi se poser la question de ce qu'on arrête de financer. Puisque nous sommes en plein hiver, est-ce que les rhinopharyngites ou les gastro, on continue de les rembourser? Vous voyez, je dis ça vraiment de façon un peu brutale pour qu'on se traumatise un peu collectivement, mais c'est le type de sujet auquel nous aurons à faire face ces prochaines années. Si on n'y fait pas face, si on n'est pas capable de les traiter, alors là, on prend le risque, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, de se retrouver dans une situation à la grecque.
Et est-ce que vous avez l'impression que la perception, la prise de conscience progresse, oui, on va dire, chez les Français, oui, que c'est un peu comme sur les retraites, que oui, finalement, ils finissent par oui, se faire une raison, c'est un peu ça.
Oui, je crois que la crise de 2008-2009 a eu Une vertu, peut-être une seule, une vertu, elle a rapproché l'opinion publique de l'économie. Et les gens se sont intéressés à l'économie. Et aujourd'hui, vous avez une certaine maturité de ce point de vue-là dans l'opinion publique. Les questions de dette, les gens les comprennent bien, en réalité. Ils comprennent bien que l'État français présente un déficit tous les ans, c'est-à-dire qu'il dépense plus qu'il ne perçoit de recettes, depuis 1975. Les gens perçoivent bien que forcément, un jour ou l'autre, ça doit avoir une limite et ça doit s'arrêter. Donc je crois que les gens comprennent très bien ça. Les gens ont vu des exemples étrangers, ils ont vu la situation grecque, ils ont vu la situation irlandaise. Donc je crois qu'il y a une certaine maturité à ce niveau-là. Mais après, la difficulté, c'est quand on rentre véritablement dans le dur des mesures, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça que je crois que ces débats, il faut les avoir très en amont. Débats sur la réorganisation de l'État, sur l'externalisation, par exemple. Débats sur les collectivités locales.
Parfaitement, justement. Vous me faites la transition. Dans l'état des lieux, vous avez un développement important, oui. C'est assez d'ailleurs original, puisqu'on ne le voit pas souvent, sur l'endettement des collectivités locales, un état des lieux précis. Voilà. Alors, en grande synthèse, il faut laisser un petit peu, bien entendu, de l'intérêt pour nos auditeurs, mais en grande synthèse, c'est quoi le problème ?
Alors, c'est Juliette Hubert qui connaît bien ce sujet, qui a traité ce chapitre. Finalement, on était un peu déstabilisés dans la mesure où l'État et les collectivités locales se renvoient souvent à la balle de la mauvaise gestion. L'État, finalement, diminuant ses dotations aux collectivités locales en disant, eh bien, comme ça, elles dépenseront moins et c'est très bien parce qu'elles dépensent trop. Et les collectivités locales, finalement, pointant du doigt le fait que l'État a transféré ces dernières années un certain nombre de compétences et de dépenses, en particulier aux matières sociales, aux départements, par exemple, ce qui mécaniquement accroît la dépense des collectivités locales. On s'est rendu compte que d'une part, et ça c'est un fait assez connu, les collectivités locales dépensent beaucoup, c'est vrai, mais elles s'endettent uniquement pour financer leur investissement et pas pour financer leurs dépenses courantes. Et comme on le dit de façon un peu provocatrice, si l'État s'était appliqué cette règle depuis les années 70, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Mais plus fondamentalement, ce qui pose sans doute problème en France, c'est ni l'État ni les collectivités locales, et je reviens là-dessus, pardon, plutôt la dépense sociale. Donc là, on est typiquement sur un faux sujet à la française. On est en train de se battre, mais finalement, ce n'est pas véritablement un enjeu. Si vous prenez le déficit public l'année dernière en France, 7% du PIB à peu près, un point provient des collectivités locales. Donc c'est important, mais enfin, il ne faut pas non plus en faire tout un drame.
Sur la dette sociale, il y a aussi en filigrane le problème de la gouvernance, puisque une grosse partie de cette dette sociale est portée par un système de co-gestion qui est celle du paritarisme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un danger et des difficultés à pouvoir mettre en œuvre une politique nouvelle sur le sujet, puisqu'on est quand même plutôt habitué depuis 1945 à faire gérer ce domaine-là, qui représente, je ne sais plus combien du PIB, mais un montant extrêmement important, par, on va dire, une co-gestion, une générosité pour le compte des autres, en quelque sorte.
Alors, oui, bien sûr, et j'élargirais même. C'est-à-dire que le problème de la gouvernance se pose, bien évidemment, à la question des déficits sociaux, mais en réalité, à l'ensemble de la question des déficits publics. Et c'est traité dans le livre par un remarquable article de François Meunier, qui fait une analyse historique un peu sur longue période, sur plusieurs siècles, et qui montre, de façon, je trouve, tout à fait convaincante, que les pays dans lesquels on arrive à contrôler le mieux la dette publique et en tout cas à concilier désendettement et croissance, ou en tout cas maîtrise de l'endettement public et croissance, ce sont les pays dans lesquels le Parlement a un véritable pouvoir de contrôle sur les finances publiques. Et ça, je crois que c'est une façon extrêmement moderne d'éclairer les choses. Parce que vous savez, on dit toujours, en France, on n'arrive pas à faire un certain nombre de réformes, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'arrive pas à le faire. Et là, justement, François Meunier nous donne une clé institutionnelle. Si on met en place des comités qui seront encastrés, des comités d'évaluation des finances publiques qui seront encastrés sous contrôle du Parlement, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, ça se fait au Royaume-Uni, par exemple, et c'est assez nouveau, là, sans doute, je crois qu'on a sur le long terme, pas pour tout de suite, bien évidemment, mais sur le long terme, une clé pour mieux contrôler nos dépenses publiques.
Alors, à titre personnel, donc, plus de cette direction d'ouvrage qui est parue chez Erol, qui est votre éditeur, au Cercle Turgot, qui, pour près de 220 pages et 15 euros, vous, pour votre part, votre contribution porte sur un vademécum pour un gouvernement qui voudrait concilier rigueur et croissance. Donc, autrement dit, quels sont les conseils que vous donnez à ce gouvernement? Alors, celui qui est en place, ou peut-être celui qui va venir. En tout cas, il se prépare du pain sur la planche, comme on dit dans la campagne.
Absolument, mais je le répète, comme de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix, autant s'y mettre. Et les créanciers de la France ont une particularité, ils sont ni de droite ni de gauche. Donc, de toute façon, quel qu'il soit, le gouvernement qui sera en place en 2012 et les années qui suivent sera obligé de s'attaquer à ces questions. Je peux donner trois pistes. Je ne vais pas déflorer l'ensemble de l'article, mais je peux donner trois pistes. Première piste, remettre au goût du jour les questions d'externalisation. En matière de secteur public, la France est le pays d'OCDE qui a le moins externalisé ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout externaliser, mais ça veut dire que quand vous avez un hôpital public, par exemple, qui, au lieu de laver son linge lui-même, le transfère avec un cahier des charges bien senti, évidemment, un opérateur privé, ça ne crée pas de diminution du PIB. C'est seulement un transfert de PIB public vers du PIB privé. Mais en principe, c'est le but de l'externalisation à des coûts moindres et avec une qualité qui peut être égale, si ce n'est supérieure. En tout cas, on a un certain nombre d'exemples étrangers, par exemple dans le domaine de la santé, qui montrent que ça peut être fait. Ça, c'est une première piste qui permet de faire des économies qui ne coûtent absolument rien à la croissance. La deuxième piste, c'est bien évidemment la piste sociale, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on fait une réforme des retraites, quand on demande aux gens de travailler davantage, si on l'a sorti d'une bonne politique d'emploi des seniors, ce qui peut-être n'avait pas été fait en France, ce qui explique un certain nombre de résistances, mais non seulement on permet au système de retraite par répartition de faire des économies, mais en plus on renforce ce qu'on appelle notre croissance potentielle, c'est-à-dire notre capacité à générer de la production et des revenus à l'avenir. Et puis le troisième point qui me semble très important, c'est l'idée selon laquelle il ne faut pas serrer tous les boulons en même temps. Moi, je prends l'exemple de la déflation Laval, de sinistre mémoire, où finalement, on avait à la fois diminué la dépense publique en diminuant les salaires des fonctionnaires et en même temps pratiqué une politique de Francfort. Ça, c'est absolument dramatique. Idéalement, quand vous faites une politique de rigueur budgétaire, il faut soit lâcher du lest en matière monétaire. En Europe, c'est plus véritablement possible parce que la Banque Centrale Européenne est déjà allée trop loin dans ce domaine-là. Soit il faut la sortir d'une dévaluation. Alors, évidemment, le franc n'est plus la monnaie en cours légal chez nous, donc on ne peut pas dévaluer le franc. Mais je pense, en revanche, que l'ECOFIN, le Conseil des ministres de l'économie de la zone euro, devrait donner une consigne de change à la Banque Centrale Européenne pour faire en sorte qu'elle, finalement, laisse un peu filer notre taux de change. C'est juridiquement possible, je l'ai vérifié, c'est l'article 109 du traité de Maastricht. Et je crois que si un grand nombre de pays de la zone euro s'engagent dans une politique de rigueur, et en réalité c'est déjà fait, il faut vraiment avoir cette discussion avec la Banque Centrale Européenne et lui dire, voilà, on fait de vrais efforts en matière budgétaire et on prend des engagements, mais en même temps, nous avons besoin d'avoir une monnaie plus faible. Et donc, quand les Américains, par exemple, font de l'assouplissement quantitatif, quand ils mettent des dollars sur le marché, eh bien, il faut nous aussi mettre des euros sur le marché ou acheter des dollars ou vendre des euros. Beaucoup de procédés techniques qui permettent de faire ça. Mais en tout cas, il faut vraiment réfléchir à cette question de la coordination des politiques de change et de la politique monétaire d'un côté et des politiques budgétaires de l'autre.
Alors, vous rappelez, bien évidemment, dans votre ouvrage que, quel que soit l'effet de la dette publique élevée, elle conduit de façon inexorable vers un prélèvement de la croissance dans le futur, un prélèvement que nos enfants devraient payer. Alors, vous inspirez tout au long de cet ouvrage des leçons de Turgot, du courage et surtout aussi des erreurs qu'il a commises dans sa politique de redressement des comptes. Et notamment, cette première erreur, c'est d'avoir été seul, avoir raison trop tôt. Et quand on est seul, avoir raison trop tôt, on a tort. Donc, c'est peut-être une des leçons ou des conseils que vous avez donné, si j'ai bien compris, au gouvernement, c'est qu'aussi une telle politique, un tel changement d'orientation ne peut se faire qu'après avoir fait beaucoup de pédagogie, de communication pour obtenir un minimum de consensus social, car sinon on va vers de grandes difficultés.
Et c'est pour ça que la question de l'équité, j'y reviens, et en particulier de l'équité intergénérationnelle, est si centrale et si importante. Mais ce livre, je pense qu'au Cercle Turgot, on l'a voulu non pas comme une critique, justement, de ce que les gouvernements ont fait jusqu'ici, parce que c'est beaucoup plus facile d'être expert que d'être gouvernant, et je crois qu'on en a bien conscience. Plutôt comme un outil de pédagogie auprès de l'opinion publique et un outil de prise de décision auprès du pouvoir politique. Et moi, je crois que les experts doivent être finalement les alliés du pouvoir politique, quelle que soit la couleur du pouvoir politique. Ça concerne la démocratie, mais ça ne nous concerne pas nous. Mais je crois que notre job, c'est d'essayer de fournir des solutions et des solutions qui soient acceptables. Puisque vous avez raison, Turgot était un très grand économiste, et moi, d'une certaine façon, je suis un peu un disciple de Turgot, mais on ne peut pas éluder le fait qu'il a finalement braqué la puissance publique de l'époque et, de ce fait, sans doute retardé un certain nombre de réformes qui auraient pu être faites.
Voilà, une grande leçon, entre autres, et je rappelle cette citation de Frédéric Bastiat que vous rappelez dans votre ouvrage, « L'État, la grande fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre, aux dépens de tout le monde, s'étend-là paraissent quelque peu finis. Il faut donc une nouvelle ambition pour la France », c'est ce que dit Olivier Pastret. Et en postface, le président du Cercle Turgot, je l'ai noté, insiste sur la nécessité d'avoir plus d'Europe pour sortir de la crise, ce qui est assez révolutionnaire au moment où on se pose la question de savoir s'il ne faut pas sortir de l'Europe et de l'euro. Et vous partagez cette...
Évidemment, il se dit aujourd'hui pas mal de bêtises sur la sortie de l'euro. Il est clair que finalement, un de mes amis membres du Cercle Turgot, qui s'appelle Christian Saint-Etienne, a beaucoup écrit sur ce sujet. Malheureusement, il n'a pas écrit dans ce livre, mais il avait écrit dans les précédents.
Oui, tout à fait.
Finalement, l'euro a été construit avec un vice de départ, c'est-à-dire une monnaie unique sans aucune coordination des politiques économiques. Et on voit bien qu'on ne peut pas sortir de l'euro. Ce serait néfaste à beaucoup de points de vue. Donc, il faut vraiment travailler sur cette question de la coordination des politiques économiques. Là aussi, je crois que les gouvernants ont bien ça en tête. On voit que les choses commencent à bouger entre la France et l'Allemagne. Là aussi, il faut faire de la pédagogie auprès des opinions publiques. On a bien vu que quand on a mis en place le fonds de soutien aux pays en difficulté, l'opinion publique allemande a eu quelques mouvements d'humeur par rapport à la Grèce. Et pourtant, on n'avait pas le choix. Et Angela Merkel était très courageuse, finalement, d'aller contre son opinion publique.
On terminera donc sur la conclusion de Jacques-Henri David. L'important, c'est que dans tous ces pays, les réformes entreprises soient calibrées de façon à crédibiliser le redressement progressif des comptes publics, sans obérer pour autant les ressorts du retour à la croissance. Voilà. Donc c'est tout de même une leçon d'optimisme. Il ne faut pas désespérer.
Juste un mot sur la phrase de Jacques-Henri David, notre président. Finalement, tout ça est affaire de psychologie. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre que si on fait ce type d'ajustement, si on arrive à se désendetter un peu, ce sera bon pour la croissance économique de ces prochaines années. Donc ce sera bon pour nous, pour nos enfants, etc. Si on arrive à faire comprendre ça, je pense que les choses se passeront bien.
Nicolas Bouzou, merci. C'était merci, vos convictions. Jean-Louis. Vous avez dirigé pour le compte du Cercle Turgot son nouvel ouvrage « Rigueur ou relance, le dilemme de Buridan ou la politique économique face à la dette » paru chez Erol, 275 pages, 18 euros. Merci à vous
merci.
Et encore bravo.